On revient maintenant parler de ce qui se passe du côté de Paris. La cathédrale Notre-Dame de Paris est toujours en feu au moment où on se parle. On vous l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, ce qui était la flèche, l'élément, la pointe qui montait le plus haut, s'est déjà effondré. Il y a une des deux grandes tours qui est maintenant en feu. Le toit est pratiquement effondré là, à au moins la moitié. C'est vraiment un incendie majeur et on se demande ce qui va rester quand les flammes auront été maîtrisées, mais au moment où on se parle, le feu continue à être d'une certaine façon hors de contrôle. Et pour en discuter, on va aller joindre à l'instant, il est au bout du fil, un professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Laurent Turcot. Bonjour.
Bonjour, M. Duhaime.
Donc, M. Turcot, on voulait vous parler un peu de l'importance puis de l'histoire de cette cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est vraiment un des monuments importants, pas juste au niveau religieux, mais au niveau historique aussi, là.
Ben oui, c'est un monument qui est fondamental dans l'histoire française. En fait, on oublie souvent que ça date du 12e siècle et que ça a pris 800 ans pour construire cette cathédrale. Mais plus encore, dites-vous que les familles qui ont mis les premières pierres se sont dit, ça se trouve, mes arrière-arrière-petits-enfants et arrière-encore-petits-enfants ne verront même pas la cathédrale finie. C'était une œuvre collective, une œuvre aussi qui était faite en gang, pourrait-on dire. Mais surtout, ce sont des secrets qui sont perdus. Parce que là, on voit sur les réseaux sociaux, les gens disent, nous allons reconstruire, on y verra que du feu. Ben non, c'est perdu ça, parce que c'est des secrets qui étaient transmis de génération en génération. Les maçons, les ébénistes, les gens, les orfèvres qui ont travaillé sur des œuvres qui sont perdues. Et juste pour vous donner une idée, là, la charpente, les gens disent « Ah, la charpente, ça sera pas si difficile à reconstruire ». Il y avait tellement de bois dans la charpente, dans le plafond donc, qu'on appelait ça la forêt. Oui. Et certaines des poutres dataient du 12e siècle. C'est extrêmement sec, donc il ne suffit que d'une étincelle pour que tout parte. Et là, la grande question, et je pense que c'est la grande question qu'on peut se poser, mais à laquelle on n'aura pas de réponse, sûrement pas tout de suite, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'avec des rénovations qu'on est en train de faire, qui justement pour éviter ce genre de drame, ben la grande catastrophe s'est produite, là?
Oui, on dit que c'est à l'extérieur que le feu aurait débuté, possiblement, où il y a des échafaudages, mais il y a une enquête présentement qui va suivre son cours. Je veux que vous me parliez aussi, est-ce que je me trompe ou si je dis que la cathédrale Notre-Dame à Montréal... c'est un peu une réplique miniature, ou en tout cas, mais qui s'inspire quand même de celle de Paris.
Non, vous avez raison, en fait. Même Saint-Pierre de Rome, qui est pas très loin, justement, à Rome, ben, on en avait fait une réplique ici à Montréal. Et ça a toujours été un des symboles qu'on a utilisé. Mais Notre-Dame, ce n'est pas nécessairement, comme on dit, la plus belle, sauf que c'est la plus importante historiquement. Ce que j'entends par plus belle, c'est qu'on dit que c'est à celle de Reims ou encore celle de, justement, en plein cœur de la France, avait des vitraux encore plus beaux que celle de Notre-Dame. Et pourtant, on aurait tort de le croire parce que Notre-Dame, ce qu'elle avait, c'est que cette immense rose. Et on raconte même dans certains traités que quand la lumière pénétrait en plein été par un jeu de vitrail, on voyait apparaître en plein milieu d'une poutre un œuf doré. C'était le génie des gens qui avaient fait les vitraux qui était arrivé à ça. Et encore aujourd'hui, des ingénieurs et des archéologues se demandent comment on a fait pour arriver à ce savoir technique. La cathédrale a vu passer les plus grands moments de l'histoire française, de la Révolution française, avec le vandalisme et la désacralisation à la Commune de Paris, où on a vu un incendie à la Première, à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui. Ben là, on se pose la question, comment ça se fait qu'on l'a échappé ici avec la technologie qui était la nôtre? Ouais. Et la technologie qui était la nôtre, autant est-elle développée, mais les pompiers, ils n'ont pas des échelles assez hautes pour monter, et on l'oublie, c'est extrêmement dangereux d'aller là, ne serait-ce que les appels d'air, et tout peut s'effondrer en un claquement de doigts, et des fois, on n'est pas sûr de la solidité d'un plancher pour pouvoir avancer. On ne sait pas ce qui s'est passé encore. Si on se fie à ce qui s'est passé dans certains grands incendies de grands monuments en Europe, en Angleterre, en Italie, ou en Espagne, et même il y a pas très longtemps au Brésil, c'est qu'on sait que les pompiers, qui sont plus de 400 en ce moment, prennent des œuvres d'art et les sortent le plus rapidement possible, quand on a le temps, bien sûr. Donc, si ça se trouve, on va découvrir qu'on a gardé, on a préservé certaines choses. Mais le bilan, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une perte qui est presque totale et on ne reverra pas Notre-Dame de sitôt. Ça a pris 800 ans à la construire. Ça en prendra sûrement pas 800 à ce qu'on la reconstruise, mais ça ne sera pas Notre-Dame. Ce sera quelque chose d'autre, malheureusement.
Justement, M. Turcot, ces pompiers qui sortent avec des œuvres, qu'est-ce qu'ils peuvent bien conserver? Parce qu'on sait que Notre-Dame de Paris, c'est beaucoup l'architecture, la structure, les portes, vous avez parlé des vitraux. Qu'est-ce qu'on peut garder comme ça en partant à course, là?
Ben, des pièces d'orfèvrerie, par exemple, ce que vous avez sur dans le calice, le tabernacle, tout ça ici, c'est des objets d'orfèvrerie qui parfois datent du 16e, du 15e siècle même. De là à dire qu'ils sont capables de voir ce que c'est, on ne le sait pas, mais il est vrai que quand vous avez des tableaux, ben, des fois, on essaie d'en sortir. On peut sortir aussi des espèces de stiffies qui sont juste à côté. Donc, on en a quelques-uns à gauche et à droite, mais faut dire quand même que c'est sans doute pas leur priorité. Puis, ils ont raison, hein, parce que ce qui est le plus important, c'est de maîtriser l'incendie. Je ne le sais pas, j'ai pas regardé dernièrement si on considérait que l'incendie était maîtrisé, mais là, la chose sûre qu'on a vue, là, ben oui, c'est pas maîtrisé. Et une des tours commence à fumer. Oui. Et là, ouais. On craint pour la structure. Ouais, parce que là, on se dit, ouais, mais tout ça, c'est en pierre, ça va pas tomber. Ouais, mais c'est soutenu par du bois, hein. C'est pas juste une cathédrale de pierre. Puis c'est ça, c'est traumatisant.
Il y avait eu une restauration, j'ai lu un peu avant que l'émission commence. Il y a une restauration qui a eu lieu il y a environ presque deux siècles, qui avait été très controversée. Parce qu'on disait qu'on l'avait trop. Il y a des gens qui disent qu'elle avait été trop rénovée, entre guillemets, alors que d'autres disaient que c'était normal, qu'il fallait la mettre à niveau. Pouvez-vous nous en parler un peu?
Ben oui, c'est l'architecte Viollet-le-Duc. On est à la fin du 19e siècle, après le roman de Victor Hugo, ouais. Qui a justement chanté les beautés de Notre-Dame, et plus encore, là, qui a sondé les profondeurs de l'âme humaine. Et bien, on dit que Notre-Dame est véritablement en train de tomber en ruine. Et c'est là que l'architecte Viollet-le-Duc, lui, se dit, il faut lui redonner son lustre d'antan. Sauf que tout le problème de la restauration, même les œuvres d'art ici au Québec, c'est la même question, c'est que parfois, pour restaurer les œuvres, il faut les altérer, transformer un peu la réalité telle qu'elles ont été produites. Et c'est ce que va faire Viollet-le-Duc. Certains vont dire qu'il va magnifier un Moyen-Âge qui n'a jamais existé, en rajoutant la flèche, par exemple, ou en rajoutant des gargouilles, en enlevant les couleurs dont était peinte Notre-Dame. Et certains vont dire que Viollet-le-Duc, à la fin du 19e siècle, oui. Est un grand destructeur du Moyen-Âge. Alors que d'autres vont dire, non, si on ne l'avait pas fait, ben, probablement qu'on ne l'aurait plus, tout simplement, Notre-Dame. Donc, c'est tout le débat. Puis encore aujourd'hui, regardez, si on fait une espèce de ricochet, la maison des Patriotes qu'on a laissé dépérir, la maison Red Path à Montréal qu'on a laissé dépérir, ce sont les mêmes problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et encore aujourd'hui, la question de Notre-Dame, aussi traumatique que ça peut être, parce que même, je pense que vous, quand vous regardez les images, on a une espèce de sentiment de 11 septembre en nous patrimonial, où on se dit, on a perdu quelque chose et c'est une impuissance totale à laquelle on est confronté. Et ça, c'est très difficile.
Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
Je vous en prie, M. Duhem.